BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est votre pâtir personnel, la plateforme de lancement, on l'espère, de vos réussites boursières. BFM Bourse jusqu'à 18h, bienvenue à tous. Étienne Braque depuis la tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40, il suit toutes les publications pour nous et les réactions de marché. Rebonjour Étienne, comment ça se passe cette fin de semaine sur le CAC?
Tous. Ça se passe très bien, surtout depuis l'ouverture de Wall Street, avec un CAC 40 qui est désormais sur les plus hauts niveaux de la séance, à la porte des 8100 points, 8095 à l'instant, c'est une hausse d'1%. Ça se passe très bien à Wall Street, grâce notamment à la publication d'Alphabet. La valeur gagne un peu plus de 10%. Microsoft également, toujours au-delà des 3000 milliards de valorisation boursière, avec une publication au-dessus des attentes. Et tout ça, ça permet au CAC 40 de signer une nouvelle semaine dans le vert.
Effectivement, la lessiveuse des publications... Il y a le tri, on fait le tri quand même sur le marché à l'occasion de cette saison de publication. On restera un tout premier bilan de cette semaine très très riche, effectivement, en annonces d'entreprises. Puis on anticipera la suite aussi la semaine prochaine. Amazon et Apple vont annoncer leurs résultats aux États-Unis. Total Energy aussi à suivre. Total Energy qui n'exclut pas, pourquoi pas, de faire de Wall Street sa cotation principale au détriment de Paris, du coup, figurez-vous. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette idée soumise au marché tout à l'heure par Patrick Pouyanné qui répondait à une question de nos confrères. La question est légitime, a-t-il dit. C'est un possible coup dur, effectivement, pour la Bourse de Paris. On va en parler donc avec nos experts. Et puis les introductions en bourse, CVC qui réussit son entrée à Amsterdam, le géant mondial de l'investissement qui fait ses premiers pas aujourd'hui. On va en parler aussi avec Étienne dans un instant. Il gère quand même chez CVC un portefeuille d'actifs estimé à 186 milliards d'euros. Et cette introduction en bourse, elle nous dit quelque chose. Parce que c'est un succès et qu'on a eu un autre succès, c'était la semaine dernière à la Bourse de Paris. Bref, ces succès peuvent-ils envoyer un signal plus positif sur les introductions en bourse? Est-ce que d'autres entreprises pourraient se dire « Ah tiens, ça marche davantage là, les introductions en bourse, moi aussi je vais m'introduire en bourse ». Cette question, on va la poser à Vincent Lessane. Il sera avec nous, Ports en Part, dans à peine un quart d'heure. On est à vos côtés. On joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et si vous avez raté la précédente demi-heure, on évoquait les autorités américaines. Elles entament une guerre non conventionnelle contre l'inflation. La victime expiatoire, les entreprises qui souhaiteraient peut-être se concentrer. Ben oui, mais les autorités américaines, du coup, elles craignent pour la concurrence si elles se concentrent trop. Et on en a un signal là, une démonstration dans l'univers de la mode et des sacs à main. On en parlait avec Charles Monod, le président de Monocle Asset Management, parce que les autorités antitrust américaines sont en train de bloquer un rapprochement entre deux petites entreprises sous prétexte que ce rapprochement limiterait la concurrence et ferait encore monter les prix. Donc un prétexte anti-inflation. Il dit, Charles, il nous disait tout à l'heure, tout ça est un peu zélé, exagéré. Le replay est à suivre et à retrouver sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Ici en Europe comme aux États-Unis d'ailleurs, Étienne, on est dans le vert, on termine brillamment cette nouvelle semaine boursière.
Oui, au-delà des 8100 points, hein, le CAC 40 qui est bien parti pour signer une nouvelle semaine dans le vert avec un gain de 0,8%, ça serait peut-être même la meilleure séance depuis mi-mars, donc depuis un mois et demi à la Bourse de Paris, alors que les nouvelles, au premier regard, comme hier, sont pas très bonnes. Hein, on se souvient que la croissance, alors bon, c'était en trompe-l'œil, était ressortie en dessous des attentes aux États-Unis. Là, tout à l'heure, on a eu des chiffres d'inflation une nouvelle fois aux États-Unis qui sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes. Hein, donc c'est la première estimation, mais elle ressort quand même à 2,8% sur un non, alors que le consensus s'attendait à 2,7. Mais le marché préfère voir le verre à moitié plein. Hein, quand vous regardez la tendance à Wall Street, elle est très bonne, hein, grâce notamment à Alphabet, grâce à Microsoft. Et puis l'obligataire qui est bien grimpé ces derniers jours se détend aujourd'hui avec un 10 ans américain qui perd 5 points de base. Donc c'est un cocktail de bonnes nouvelles qui propulse lundi sur les plus hauts niveaux de la séance. D'autant plus que vous avez des investisseurs qui reviennent sur certaines valeurs qui ont baissé ces derniers jours suite à leurs résultats. C'est le cas de Schneider Electric qui se reprend avec un gain de 2,6% à 216 euros. Vous avez Kering qui prend 3,6% à 339 euros. Et puis les publications du jour sont bien accueillies à l'image de Saint-Gobain qui prend plus de 6% à 74,76. Total Energy après sa publication prend 2,6% à 69,89. Seule exception aujourd'hui, c'est STMicroelectronics, hein, qui avait fait une belle séance hier mais qui est pénalisé aujourd'hui par Intel, hein, qui est quand même assez prudent à court terme, contrairement à STM hier qui, dans son conférence avec les investisseurs, anticipait un point bas qui avait été touché ces dernières semaines. Bah là, Intel est beaucoup plus prudent et ça fait baisser la valeur et l'ensemble des valeurs des semi-conducteurs. Moins 1,9% pour STMicroelectronics à 38,90. Hors CAC 40, ça se passe très bien pour Eramet qui a publié des résultats supérieurs aux attentes et qui relève ses prévisions de rentabilité. Plus 12% à 89,30. Et puis Nexity qui a confirmé hier soir la suppression de plus de 500 postes. Hein, c'est compliqué dans le secteur immobilier. Eh bien, ça plaît au marché. Plus 6,4% pour ce titre Nexity qui retrouve les 10 euros. Le tout donc dans une tendance positive avec un CAC 40 qui reprend 1% aujourd'hui à 8097 points. Les volumes d'échanges qui sont présents pour un vendredi, c'est pas mal, 1,5 milliard d'euros négociés à moins d'une heure et demie du fixe.
Pierre-David Quenut avec nous, GSD Gestion. Bonjour Pierre-David.
Bonjour Guillaume.
Il y a un petit vilain canard là quand même dans le marché. C'est vrai qu'on a des hausses avec les publications, mais aussi quelques déceptions. Alors aujourd'hui, on l'attendait pas celle-là. Airbus, malgré un trafic aérien qui explose, des commandes aussi qui explosent, et bien le bénéfice d'exploitation ressort en forte baisse au premier trimestre. Airbus recule dans un marché en hausse.
Oui, c'est assez étonnant parce qu'effectivement Airbus c'est quand même un poids lourd du CAC et en fait quand on voit les livraisons qu'elle a en cours, le carnet de commandes, on est un petit peu étonné, surtout que le chiffre d'affaires consolidé d'Airbus progresse malgré tout de 9% en glissement annuel. Par contre, voilà, l'effet négatif a priori est lié à l'augmentation du plan d'actionnariat salarié d'Airbus qui pèse, hein, donc un record des participations pour les employés, donc c'est plutôt une nouvelle pour eux. Le marché le prend moins bien, évidemment. Par contre, c'est un titre sur lequel, pour le coup, on est presque heureux qu'il perde aujourd'hui un petit 2% pour pouvoir l'acheter si on n'en a pas ou renforcer la ligne, parce que ça fait vraiment partie des titres qu'il faut avoir dans un portefeuille.
Ce titre, donc, ah, voilà. Ce titre Airbus, on est là, hein, on est là, je ne sais pas si le micro marche, en tout cas on est là,
oui, on
et
est là.
On essaye, moins 0,8% ce titre Airbus en ce moment effectivement, alors que sur un an le titre est toujours en hausse quand même, de 25%, voilà, je ne sais pas si on m'entend, mais on va dire que oui, dans l'oreillette en tout cas je n'entends plus rien. Des autres valeurs à surveiller, Total Energy, c'est la question qu'on pose, ça y est, qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn également, parce que Total Energy n'exclut pas de faire de Wall Street son lieu de cotation principal, figurez-vous. La question est légitime, voilà ce qu'a expliqué tout à l'heure Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy. Alors pour vous, c'est la question du jour, pour vous, oui, Total doit-il quitter la Bourse de Paris? Oui, non, ou plutôt, pourquoi pas une double cotation. N'hésitez pas, vous tous, à continuer de voter. Vous êtes déjà nombreux à le faire, à nous laisser vos arguments aussi en commentaire. On va rebondir dessus, notamment dans la famille BFM Bourse à 16h30. Mais Pierre-David, puisqu'on est avec nous, on va vous la soumettre aussi, cette question. Total Energy qui n'exclut pas, pourquoi pas, ils vont peut-être y réfléchir, de faire de Wall Street sa place de cotation principale. Pourquoi faire? Enfin, est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce que ça dit?
Ben écoutez, je vais apprendre, enfin, je vais reprendre les propos de Patrick Pouyanné qui dit que c'est pas une question d'émotion, mais c'est une question d'affaires. Et donc effectivement, dans l'émotion, on dirait c'est dommage parce que c'est une belle valeur bon française. Donc on est un peu chagrin. Mais après, il y a effectivement sur Wall Street plus de flux, plus de capitaux. On exclut du coup pour les Américains qui sont de plus en plus nombreux à s'intéresser aux titres. Bon, on exclut le problème du change. On exclut également le problème de la plage horaire. Et puis après, il y a effectivement les éléments comme l'ESG qui est un peu plus souple et plus modéré aux États-Unis. Donc tous ces éléments sont plutôt favorables si on n'a pas de l'émotion en voyant un fleuron de notre économie pouvoir aller être coté sur une autre place. Alors c'est un peu dommage parce que forcément en termes de volume on va y perdre, mais peut-être que le titre lui va y gagner, donc on va rester attentif.
Parce que l'idée c'est qu'effectivement il y a plus d'argent qui s'investit sur le marché américain, parce que l'idée aussi c'est que l'ESG est un petit peu plus souple aux États-Unis qu'en Europe et donc les Américains un peu plus prompts à acheter un titre comme Total Energy que les Européens. C'est Patrick Pouyanné lui-même qui explique dans cette interview que les Européens achètent de moins en moins de titres Total Energy, contrairement aux Américains, si bien que la part des Américains dans le capital progresse et approche, dit-il, les 50%.
Oui, c'est ça.
Oui. Alors, est-ce que l'ESG risque d'étouffer les marchés européens? Est-ce que c'est la conclusion qu'on peut en tirer si un jour, effectivement, Total Energy venait à choisir Wall Street plutôt que Paris?
Ben c'est effectivement un élément défavorable. Voilà, il faut, tout excès est compliqué et ne permet pas un développement. Donc ça va dans le bon sens, mais il ne faut pas en faire de trop.
Merci Pierre-David de nous avoir accompagnés, GSD Gestion, puis Étienne aussi qui nous rappelle depuis la Tour Euronext ce titre Total Energy, justement qu'on suit après les propos de Patrick Pouyanné, la publication. Il est au plus haut aujourd'hui, Étienne, ce titre.
Et oui, ce titre Total Energy qui est à la porte des 70 euros. Alors, ça me fait penser quand même, souvenez-vous, en 2022, au départ de Ligne 2, vous savez, qui était la plus grosse capitalisation du DAX à Francfort. Et depuis, le titre a fait 50% à Wall Street. Vous savez, Ligne 2, c'est un spécialiste du gaz industriel, plus 50% depuis sa principale cotation à New York. Alors, les raisons étaient autres, puisque le groupe était mécontent de voir qu'il était plafonné à 10% dans l'indice DAX qui le pénalisait dans la gestion passive.
Alors, tout n'est pas encore complètement fichu pour l'Europe. Non. Face à Wall Street, il y a encore des introductions en bourse et des entreprises qui choisissent l'Europe pour s'introduire. Un exemple, aujourd'hui, à la bourse d'Amsterdam, Étienne.
Eh oui, avec CVC. Alors, c'est une société qui est spécialisée dans les infrastructures, dans le private equity. Et ça y est, là, ils ont aujourd'hui réalisé leur introduction en bourse. Enfin, vous allez me dire, parce que c'était la troisième tentative. Ils avaient reculé à de nombreuses fois ces derniers mois. Et ça se passe très bien, puisque vous avez ce titre à Amsterdam qui gagne plus de 21% au-delà des 16 euros. Pourtant, l'introduction en bourse n'était pas en bas de fourchette, loin de là. Le groupe a réussi à lever plus de 2 milliards lors de cette levée de fonds. C'est la plus grosse introduction en bourse de l'année en Europe et il faut même remonter à 2021 pour voir une levée supérieure à 2 milliards en Europe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les introductions en bourse. 2 milliards grâce à cette IPO. Groupe qui est valorisé plus de 14 milliards d'euros aujourd'hui à Amsterdam et qui compte un peu plus de 180 milliards d'actifs sous gestion. Alors on leur souhaite un parcours meilleur que ses concurrents, puisque quand vous regardez l'action Bridgepoint perd 50% depuis son introduction à Londres, c'était en juillet 2021, quand Antin Infrastructure, qui est coté à Paris, perd 58% depuis septembre 2021.
Effectivement, et on verra si cette introduction largement réussie encourage d'autres introductions en bourse. On sera avec Vincent Lesanne pour Pense en Part, spécialiste du sujet, dans quelques minutes. Merci beaucoup. Étienne Braque, depuis la Tour Euronext, et Sonia Fassolo aussi, qui nous accompagne depuis Eleva. Valeur ajoutée, une idée de valeur en plus que vous venez nous proposer, Sonia. Bonjour. Vous portez aujourd'hui une opinion positive sur un acteur des outils à la décision, un acteur coté en bourse des outils à la décision.
Oui, il s'agit de RELEX, qui est une valeur dans laquelle nous sommes investis dans notre fonds d'impact. C'est un groupe anglais de 70 milliards d'euros de capitalisation. Alors, peut-être deux mots pour le présenter parce qu'il est assez peu connu du grand public. C'est un groupe dans le secteur de l'information professionnelle qui construit, comme vous l'avez dit, des outils d'aide à la décision en s'appuyant sur des énormes bases de données pour les assureurs, les avocats, les banquiers notamment. Et c'est aussi le leader mondial de la publication de recherche académique et qui contribue donc à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs de développement durable comme l'accès à l'éducation.
Qu'est-ce qui vous convainc le plus dans cette société ?
Alors déjà, c'est parce que son profil de croissance est assez visible, tout terrain, je dirais même. Environ 60% du chiffre d'affaires est généré avec des abonnements, donc récurrents. Et puis, c'est une entreprise dont la croissance accélère. Elle est passée de 4% il y a quelques années à 6% et bientôt 7% par an. Parce que l'activité qui est destinée aux avocats, qui s'appelle Lexis, bénéficie du lancement d'un module d'intelligence artificielle générative qui aide les professionnels du droit à faire de la recherche documentaire, des résumés, des analyses de documents, en s'appuyant sur une base de données propriétaire très fiable. Et ce produit rencontre un très vif succès aux États-Unis parce qu'il fait gagner à ses utilisateurs plusieurs heures de travail par semaine. Et comme vous le savez, les avocats facturent leurs honoraires à l'heure. Donc le retour sur investissement est immédiat pour ses clients. Et ce module va être déployé aussi en Europe, en Australie, dans les jours qui viennent. Donc on est au début de cette histoire-là. Et puis c'est aussi une entreprise qui gère très bien ses coûts. D'ailleurs, ils utilisent eux-mêmes l'IA pour ce faire. Et combiné donc à des rachats d'actions structurelles, ça permet aux résultats par action de croître encore même plus vite que le chiffre d'affaires.
RELEX qui gagne désormais 23% d'ailleurs sur un an. Opinion favorable avec vos équipes chez Eleva. Merci beaucoup Sonia. Sonia Fassolo en direct avec nous sur BFM Business. Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,9%. Wall Street aussi bien orienté. Le Nasdaq notamment grâce à Microsoft plus 3% et surtout Alphabet plus 10% Alphabet. Après l'annonce d'un premier versement de dividendes, de puissants rachats d'actions aussi, puis surtout les résultats supérieurs aux attentes, Alphabet gagne donc 10% et le Nasdaq qui en profite. C'est sur le Nasdaq qu'on trouve la plus forte hausse des trois indices américains aujourd'hui.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Alors justement, les États-Unis, c'est sur eux que se projette l'essentiel de l'attention. François Rumeux est avec nous pour la Française Asset Management. Bonjour François.
Bonjour Guillaume.
Parce que l'indicateur préféré de la Fed a été publié, l'indice PCE, l'indice d'inflation PCE. Et cet indicateur qui a été publié, c'était tout à l'heure en début d'après-midi, confirme une inflation toujours là, toujours collante aux États-Unis.
Oui, elle est toujours là. Ça fait le troisième mois consécutif où l'inflation, donc le corps PCE, ressort un peu au-dessus de la cible de la Fed à 0,3 sur le mois. C'est sûr que sur le premier trimestre, les chiffres ne sont pas en ligne avec l'objectif de la Fed et ça corrobore le changement de ton de cette dernière au cours des dernières semaines.
Effectivement. Comment est-ce qu'on explique cette inflation toujours là, toujours collante, voire qui réaccélère un petit peu?
Alors, si on veut voir le verre à moitié plein, on peut se dire que la majorité des surprises sur le premier trimestre viennent d'éléments volatiles et qu'on peu espéré, peu reproductible dans le temps, avec un effet retard qui vient de la crise du Covid et autres. Donc on a une augmentation des coûts des assurances auto, par exemple, qui viennent de la hausse des prix des voitures précédemment. On a des hausses dans la santé aussi, qui ont avec un effet retard. Pareil sur l'immobilier. Donc il y a un petit peu d'espoir que ce que l'on a connu au premier trimestre ne soit pas forcément la vérité des prochains trimestres à venir.
À suivre donc la réaction de la Réserve fédérale américaine, bien évidemment, sur ce chiffre, le PCE Core. En tout cas, sur les marchés, pas d'inquiétude particulière, parce que le chiffre d'un mois sur l'autre, lui, est parfaitement conforme aux attentes. C'est ce que nous disait aussi John tout à l'heure en complément, John Plassard, à 15h30. Le 10 ans américain est en ce moment à 4,65. Ici, en France, qu'est-ce qu'on va surveiller? Ce soir, les agences de notation Fitch et Moody's qui pourraient dégrader. Alors, la note, pas forcément, mais au moins la perspective de la note française. Est-ce que c'est encore un vrai enjeu, le choix, la décision, la vision, le regard des agents de notation sur les notations des États?
Pour les intervenants de marché, c'est un petit enjeu. Et on voit bien que le spread français par rapport à l'Allemagne, finalement, varie assez peu. Depuis le dérapage budgétaire qui a eu lieu le mois dernier, l'annonce des chiffres de déficit français en 2023, on a finalement le spread entre les taux allemands et les taux français qui a bondi de 7, 8, 10 BP, c'est pas très important. On est toujours à peu près autour de 50 BP de spread, donc il n'y a pas un gros enjeu. Et il est très probable qu'on ait un outlook neg de la part de Moody's. Fitch, c'est moins sûr, parce qu'ils ont déjà une notation qui est en dessous des autres grandes agences, S&P et Moody's, donc Fitch, c'est moins sûr. Mais même si on avait une dégradation, il est probable que l'impact soit assez limité sur la dette française.
Le 10 ans français, à quelques heures du choix de Moody's et Fitch, le 10 ans français est en léger repli, légère détente, à l'image des autres taux souverains. On est à 3,04 en ce moment sur le 10 ans français. Merci beaucoup, François, de nous avoir accompagnés. Stratégie senior à la française, Asset Management. Le CAC 40 est toujours en hausse. Notez que le yen au Japon, le yen lui est sur de nouveaux plus bas de 34 ans aujourd'hui, puisque ça y est, la Banque du Japon a rendu son verdict et il n'y a pas eu de nouvelle hausse de taux après celle du mois de mars. C'est un statu quo qu'a choisi la Banque du Japon. Le yen est donc sur un nouveau plus bas de 34 ans aujourd'hui face au billet vert.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et donc, c'est un jour de fête pour les introductions en bourse en Europe. Encore une introduction réussie. Le géant mondial de l'investissement CVC Capital Partners fait ses premiers pas aujourd'hui à la bourse d'Amsterdam. Bah, c'est un carton. Le titre gagne 21% en ce moment, CVC, donc à Amsterdam. Encore une bonne nouvelle après une introduction réussie la semaine dernière à Paris d'une autre société. Alors, va-t-on du coup vers un retour, une multiplication peut-être des introductions en bourse? Vincent Lessane est spécialiste de ces questions. Ports en part. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. Bienvenue. La semaine dernière, c'est Planisware qui avait réussi son introduction à la Bourse de Paris en l'occurrence. Est-ce que quand on a comme ça une série d'introductions un peu mieux réussies que les précédentes, ça envoie un signal susceptible éventuellement d'encourager les sociétés effectivement à suivre le chemin tracé et effectivement choisir la bourse plutôt que le private equity?
Oui, alors c'est clairement un très bon signal qui a été envoyé par ces deux opérations. On rappelle que 2023, ça avait été un point bas pour les IPO depuis plus de 15 ans en Europe, mais également aux US. Donc c'est effectivement, comme vous le dites, c'est des sujets qui sont regardés par les candidats à la bourse, par leurs conseils. Et donc d'avoir eu en fait ces opérations qui se passent extrêmement bien, c'est un signal particulièrement encourageant. Alors, l'opération Planisware est assez riche d'enseignements, parce que c'est une société qui avait tenté en fait de venir en bourse l'année dernière, qui n'avait pas réussi en fait son opération. On sait que c'est jamais évident. Elle a réussi et quand on regarde un peu quelles ont été les caractéristiques, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une opération qui est 100% cash out. On sait que c'est des sujets qui peuvent être challenging pour les investisseurs. Là, la demande a néanmoins été très forte. On voit également que le poids des cornerstones, vous savez, c'est ces gens qui s'engagent en fait en amont de l'opération et quelque part qui donne une dynamique, un marketing positif sur l'opération était beaucoup plus important cette année qu'il ne l'était l'année dernière. Près de la moitié de l'opération était déjà garantie par des asset managers français et internationaux. Voilà. Et puis il y a eu également dans l'entrefaite une amélioration. On a un peu fait bouger un peu les règles en fait hein, sur notamment la possibilité pour ces opérations d'être faites dans un laps de temps plus court. C'est ce qu'a utilisé d'ailleurs Planisware, à savoir une opération qui n'a duré entre guillemets que 48 heures, là où avant, réglementairement en France, vous deviez avoir une opération qui durait 6 jours et donc quelque part qui pouvait exposer l'opération un peu plus longtemps à des risques exogènes de marché. Donc on voit que ça a été également un élément, donc beaucoup d'éléments intéressants. Et puis également, je pense, c'est la nature même de l'entreprise. C'est une société qui est très rentable. On se posait beaucoup de questions sur savoir, vous l'évoquiez tout à l'heure en amont, sur les intérêts de croisés entre les bourses américaines et US. Est-ce qu'en France, en Europe, on est capable de pricer la tech? Je pense que c'était une vraie question. C'était notamment la question qui avait donné lieu à des rapports comme le rapport Tibi. Est-ce qu'en Europe, on est capable de pricer? On voit que Planisware, c'est une tech, elle rentre directement dans l'indice Eurotex Tech Leader. Donc voilà, ça, c'était clairement une bonne réponse et on pense que ça va faciliter le retour des introductions en bourse.
Mais est-ce qu'il faudrait encore plus simplifier la vie des entreprises qui choisissent la bourse? On a vu passer une proposition de loi il y a quelques jours à l'Assemblée nationale pour renforcer par exemple l'attractivité du marché parisien pour les entreprises, leur permettre par exemple aux entreprises internationales de se coter avec des droits de vote doubles ou aux entreprises françaises aussi, histoire que les dirigeants ne se retrouvent pas dilués, parce que ça fait partie des craintes des dirigeants avant d'introduire leur entreprise en bourse, se retrouver dilués.
Exactement.
Est-ce qu'il faut, par exemple, aussi, pourquoi pas, faciliter les augmentations de capital? C'est aussi dans la proposition de loi, en autorisant davantage les décotes. Bref, est-ce qu'il faut aller encore beaucoup plus loin dans la simplification de la vie des entreprises en bourse?
Alors, cette loi attractivité, en fait, elle amène effectivement des... c'est au sein de cette loi, d'ailleurs, qu'on retrouvait cette capacité à réduire le temps d'introduction en bourse. Vous l'avez dit, il y a un paquet de techniques qui a été poussé pour rendre plus attractif les droits de vote multiples. C'est quelque chose qui intéresse une partie en fait, et notamment ces sociétés licornes qui se sont beaucoup diluées en fait par des tours assez conséquents dans private equity, donc avec un vrai enjeu de conserver le contrôle pour les managers. Donc ça, c'était attendu notamment par des associations comme la French Tech qui poussaient en fait ce type de demande. Et puis comme vous l'avez dit aussi, faciliter les augmentations de capital, notamment les augmentations de capital privées qui sont plus rapide en fait en termes d'exécution. Donc ça va dans mon sens. Je pense qu'il y a d'autres mesures en fait qui sont sur la table. Il y a notamment, ça a été annoncé par le président de la République, une simplification là du coup du PAPME pour le rendre plus attractif. Ça fait partie aussi des choses. Je pense qu'il y a encore, comme toujours, il y a l'Listing Act qui va être adopté là dans les prochaines semaines. On est en permanence en recherche d'amélioration pour rendre les marchés plus attractifs.
Effectivement, et pour accroître le financement des entreprises. C'est aussi à ça que sert la bourse. Alors vous le disiez, le PEA-PME, il fête ses 10 ans. Il y a des pistes institutionnelles pour amener encore plus de cash, encore plus d'épargne, en gros, des Français vers les petites et moyennes entreprises.
Alors aujourd'hui, c'est effectivement, quand on regarde, c'est le point, je dirais, qui n'est pas satisfaisant, et ce, depuis maintenant plusieurs années. On est toujours, enfin, on n'a pas eu de retour en fait de la collecte sur ces fonds mid and small. Alors il y a quelques initiatives qui ont été annoncées, notamment la Caisse des dépôts qui annonce investir 500 millions d'euros cette année pour alimenter ces fonds et leur permettre de passer la taille critique. On sait que la taille critique d'un fonds mid and small se situe probablement entre 100 et 300 millions d'euros d'encours. Il y a tout un écosystème qui se situe là, donc la Caisse va aider en fait à créer cette dynamique. C'est un premier geste. On a probablement besoin également de fléchage de l'épargne plus dynamique. On sait qu'il y a eu des discussions sur tout ce qui est plan d'épargne retraite. On sait que c'est des produits qui intéressent les Français. Il faut probablement essayer de flécher une partie de cette épargne pour financer les PME. Aujourd'hui, c'est pas suffisant.
Vincent Le Salm pour Ports en Part, régulièrement à nos côtés, spécialiste donc de ces introductions en bourse. Il y en a une qui réussit aujourd'hui après celle de Planisware la semaine dernière à Paris. C'est à Amsterdam aujourd'hui qu'on a un succès. Le géant mondial de l'investissement CVC Capital Partners en hausse de plus de 20% pour sa première journée de cotation. C'est quand même un portefeuille d'actifs de près de 200 milliards d'euros. Ils comprennent par exemple des participations dans la marque horlogère suisse Breitling par exemple, ou l'été Lipton. Voilà. Et donc ce groupe réussit aujourd'hui son introduction en bourse, peut-être un signal encourageant pour...
Probablement un signal, et notamment dans des secteurs comme l'IA. Et c'est ce genre de choses qui est extrêmement capitaliste.
Merci Vincent d'être passé nous voir. Dans un instant, la famille BFM Bourse jusqu'à 17h. Le CAC 40 est en belle hausse aujourd'hui avec des publications saluées. Saint-Gobain gagne 6% aujourd'hui, figurez-vous. Total Energy sur un plus haut historique, plus 2,9%. Le hic, c'est que Total Energy est peut-être en train de réfléchir à quitter, on verra, la Bourse de Paris pour choisir Wall Street. On en parle dans un instant, juste après la pause. On y consacre aussi un article, n'hésitez pas à le consulter sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
On était en train de faire le générique à nous de Sabrina. On salue Olivier Ferrand, le directeur de l'antenne. Olivier. Et c'est la famille BFM Bourse jusqu'à 17h chaque après-midi. Ça va Sabrina?
Super, et vous Guillaume?
Bah écoutez, en pleine forme, voilà, on est là, à la radio, à la télé, et les équipes web qui nous accompagnent dans cette famille réunies au grand complet chaque jour. Et on est d'autant plus content, Sabrina, de vous accueillir.
Merci Guillaume.
Que le CAC 40 vous applaudit. Il gagne 1,4% aujourd'hui. Belle fin de semaine.
Hein, on gagne plus de 1% du coup sur la semaine. Hein, on revient sur les 8100 points et ça fait du bien après une séance difficile la veille à cause d'un indicateur d'inflation qui était associé à la croissance américaine qui avait crispé un peu les investisseurs. Mais là, enfin, c'est toujours l'indice d'inflation, hein, le PCE, qui rassure, hein, surtout en données mensuelles. Hein, on gagne, c'est une hausse de 0,3%, conforme aux attentes et aussi des éléments de cette publication, de ces statistiques qui sont assez intéressantes. La consommation des ménages qui progresse en mars et aussi bah, les Américains gagnent aussi plus en mars qu'en février. Ça, c'est assez intéressant.
Bon, c'est plutôt bon pour la croissance, une résilience encore à venir sans doute de cette croissance américaine, et en même temps on n'a pas de flambée inflationniste, même si quand même le chiffre core PCE est stable, on l'espérait en ralentissement, non il est stable, et le PCE global réaccélère un peu en données annuelles, mais en mensuel c'est parfaitement conforme.
Il y a aussi Total Energy hein, qui progresse de plus de 2%, ce qui tire aussi le CAC à la hausse.
Ah, vous avez bien raison de le dire, tiens, effectivement, mais oui, bien sûr.
Ça a accéléré après l'ouverture de Wall Street.
Mais effectivement, ah oui, 2,9% la hausse de Total Energy qui est sur un plus historique, c'est l'une des plus grosses pondérations du CAC 40. Effectivement, on a un CAC désormais en progression d'1,5%. Et sur l'inflation américaine, si vous vous demandez quelle trajectoire nous attend désormais, on posait cette question à François Rimeux pour la Française AM, c'était dans l'Écho du Monde à 16h15, le replay. Ça y est, le replay est disponible, n'hésitez pas à le consulter aussi sur notre application BFM Business. Gilles Santacreux est avec nous, bonjour Gilles. Depuis les bureaux boursicoté.com, ravi Gilles de vous retrouver. On a aussi beaucoup de publications aujourd'hui, on va en parler longuement avec Sabrina dans un instant. Le marché aujourd'hui accueille bien non seulement les publications, mais aussi le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Notre CAC 40 est même en train d'accélérer à mesure qu'on s'approche désormais de la clôture.
Oui, on a eu une réaccélération du mouvement donc à partir de 14h30, donc l'heure de diffusion du PCE Core. Et c'est assez intéressant techniquement là ce que l'on a, puisque ces deux derniers jours, on avait des signaux potentiellement baissiers. Après une sortie de trend qui avait été confirmée mardi, eh bien mercredi, jeudi, ça a été un petit peu la peur de retourner justement dans une phase de tendance baissière. Et puis finalement, le fait que l'on réaccélère en s'appuyant sur une zone identifiée à 8024 points, eh bien nous redonne un petit peu d'optimisme. Alors, le CAC 40, il est aussi aujourd'hui, il est porté par des volumes qui, semble-t-il, vont être supérieurs à la moyenne. Tout cela est assez positif. Donc, le point à surveiller, c'était 8024 points. On a fait un plus bas légèrement supérieur à ce niveau. Et le fait que l'on se porte au-delà des 8092 points, eh bien, est en train d'enrayer justement la dynamique baissière qui était en train de se développer auparavant, qui était elle aussi portée d'ailleurs par des volumes supérieurs à la moyenne. Et si on revenait sur la zone des 8145 points, alors que ce soit ce soir ou la semaine prochaine, eh bien là, on impulserait un nouveau mouvement qui pourrait accélérer vers les plus hauts du CAC 40. Donc pour l'instant, c'est assez positif. Et par rapport à la séance actuelle, je dirais qu'on est dans la continuité de ce qui s'est passé en début de semaine avec cette sortie de trend baissier.
On est vraiment au milieu de la saison de publication des résultats. Il y en aura encore beaucoup la semaine prochaine. Vivendi doit publier lundi soir. Thales aussi la semaine prochaine. Beaucoup d'autres publications. Et bien sûr Apple aux États-Unis ou encore Amazon. On a encore beaucoup de grains à moudre devant nous. Du côté des valeurs, justement, il y en a une qui a publié cette semaine, chouchou des actionnaires particuliers, c'est Air Liquide. La publication n'avait pas été saluée d'ailleurs, Air Liquide. Vous teniez à revenir sur le potentiel technique pour la suite, parce que c'est vrai que ça concerne beaucoup de particuliers, Gilles, ce titre Air Liquide. Quel potentiel, quelle perspective sur cette valeur désormais?
Alors, Potentiel, on ne sait pas trop. Par contre, il y a une chose qui est intéressante sur ce titre, c'est qu'on est toujours dans une tendance haussière de moyen terme. Mais au sein de cette tendance haussière, on est en train de marquer une petite phase de consolidation, donc une baisse qui a marqué une nouvelle étape en franchissant à la baisse la zone horizontale des 186,40 euros et qui se dirige vers une autre zone de support qui se situe aux alentours des 175 euros. Si cette zone venait à être atteinte, on pourrait être sur des supports qui coïncideraient avec un support oblique de tendance moyen terme qui pourrait repropulser le titre vers une reprise de la hausse. Alors, c'est intéressant lorsque l'on s'approche de supports comme ça majeurs, puisque on peut dire que si on reprend la tendance globale, donc à la fin de cette phase de consolidation, on pourra avoir une perspective relativement importante qui serait confirmée par un retour donc des cours au-delà de la zone des 186,40. Donc, effectivement, on est toujours dans une phase de consolidation, et ce, après les résultats, comme vous l'avez dit, donc sur ce titre, mais un retournement de tendance est à surveiller par rapport justement à une reprise éventuelle de la tendance de fond.
Air Liquide, merci beaucoup. Merci Gilles de nous avoir accompagnés. On vous rappellera la clôture des marchés, ce sera à 17h35 en direct tout à l'heure.
Avec plaisir.
Plaisir partagé. On parlera aussi dans un instant, on n'en a pas parlé là, depuis le début de la famille Sabrina, mais Microsoft et Alphabet, bien sûr. Hein, et les publications d'hier soir sont saluées. L'IA, le cloud portent leurs perspectives.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Gilles. Et également ce premier dividende annoncé par Alphabet. Le titre Alphabet à Wall Street gagne 10% et Microsoft plus 2,5%. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, notre question. Il est 16h38. La question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, vous pouvez vous y abonner. Notre fil LinkedIn aussi. Elle concerne cette question, vous en disiez un mot, Total Energy.
Oui.
Total Energy qui a publié ses résultats et dont le patron, le PDG Patrick Pouyanné, s'est exprimé. Il a dit tout à l'heure, Patrick Pouyanné, ne pas exclure une cotation à Wall Street, une cotation principale à Wall Street à l'avenir. Et cette question qu'on vous pose, donc pour vous, Total Energy, le titre, doit-il quitter la Bourse de Paris? Oui, non, ou pourquoi pas une double cotation? Vous êtes nombreux à répondre, on vous fera part d'ailleurs du résultat de cette question.
Voilà, que je ne regarde pas.
Ne regardez pas, c'est en face de vous, ne regardez pas.
Je ne regarde pas.
Vous, Sabrina, vous estimez que Total Energy ferait bien de quitter la Bourse de Paris ou on est mieux à Paris qu'à Wall Street?
Alors, proposer une réponse qui va contenter tout le monde.
Je sens la réponse de Normande.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, la double cotation. Alors bon, c'est vrai que Total Energy a tout intérêt à aller chercher les fonds là où ils sont et aussi là où elle est la mieux valorisée, et il s'avère que c'est à Wall Street. Bien sûr, le patron de Total Energy a cité d'ailleurs comme argument la montée en puissance de l'actionnariat institutionnel nord-américain qui détient près de 50%. Là où en Europe et en France, on se retire un peu, et surtout Total Energy peut intégrer des fonds ESG aux États-Unis, là où en Europe, ce n'est pas forcément le cas. Mais quand même une cotation secondaire à Paris, pourquoi? Pour ménager un peu les susceptibilités politiques et aussi pour le symbole, parce que Total qui quitterait définitivement la Bourse de Paris, ce serait quand même un énorme symbole.
Effectivement, Total Energy, une des plus grosses pondérations aujourd'hui du CAC 40. BlackRock, par exemple, vous parliez des institutionnels américains, BlackRock, le fonds de pension, détient à lui seul quasiment 7% du capital flottant.
Ah oui.
Et les Américains, c'est vrai, plus de 40%, les Nord-Américains, parce que les Américains un peu plus souples que nous sur le ESG, les Nord-Américains continuent d'acheter Total, alors que les Européens, c'est ce que dit Patrick Pouyanné en tout cas, n'en achètent plus, ils maintiennent leur position, voire ils les allègent. Si bien donc que la part des Américains est en train peu à peu de progresser, une des raisons pour lesquelles Total Energy, effectivement, réfléchit, pourquoi pas, effectivement, à une
D'ailleurs, Total Energy est coté aux États-Unis via des ADR, depuis une trentaine d'années.
Voilà, mais c'est tout petit.
C'est tout petit.
Voilà, là, il s'agirait d'une cotation principale. Bon, on vous interroge, nous aussi, donc, sur les réseaux sociaux, notre fil X et notre fil LinkedIn BFM Bourse, et vous êtes, pour cette question qu'on vous pose, une majorité à dire que Total Energy ne doit pas quitter la Bourse de Paris. 50% d'entre vous, 32% quand même, un tiers de nos auditeurs et téléspectateurs disent oui, Total Energy devrait quitter la Bourse de Paris. Ah oui.
Et
c'est vrai que si on cherche de l'argent, des liquidités, collecte,
voilà,
du volume,
des fonds qui sont prêts à investir, effectivement c'est à aller chercher l'argent où il est.
Exactement.
Aux États-Unis.
Et c'est ce que nous disait tout à l'heure, d'ailleurs, Charles Monod pour Monocle Asset Management. Il nous disait, il y a de moins en moins de volume sur les marchés, donc moins il y en a, plus on va les chercher là où ils sont. Et où est-ce qu'ils sont? Ils sont à Wall Street.
Bien sûr.
Donc moins il y a de volume à l'échelle même mondiale, et plus ça renforce l'attrait de Wall Street.
Par exemple, l'Allemand Lind a fait le choix carrément de quitter la Bourse de Francfort pour vraiment s'établir à Wall Street, pour ces raisons-là.
AstraZeneca, ils sont présents, c'est un groupe anglais, hein. Ils sont laboratoires, ils sont à Wall Street, ils sont cotés à Wall Street. On a aussi coté à Wall Street Birkenstock,
Arm, il y en a beaucoup.
Voilà, alors ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business et aussi la télévision, vous voyez Sabrina sous le costume Birkenstock, vous, êtes en... vous venez à chaque fois en standale. Et il se trouve que le groupe est coté à Wall Street, effectivement, même si c'est un groupe allemand. Bon, on verra effectivement si Total Energy choisit de faire de Wall Street sa place principale. C'est un vrai signal, n'empêche, pour l'ESG. Est-ce que l'ESG en Europe est trop strict? Est-ce que l'ESG risque d'asphyxier les marchés européens, de réduire encore leur attrait face à Wall Street? Vraie question qu'on posera dans le club, notamment tout à l'heure, à partir de 17h. En attendant, Sabrina, il n'y a pas que Total Energy à suivre. Il y a aussi cette publication alors de Saint-Gobain. C'est la plus forte hausse du CAC 40. Là, il est 16h42, le titre Saint-Gobain gagne 6,5% après avoir légèrement dépassé les attentes au premier trimestre.
Et oui, la doyenne du CAC 40 a réussi son rendez-vous avec le marché, hein, puisque le Saint-Gobain a publié des revenus trimestriels supérieurs, légèrement supérieurs aux attentes. Hein. Les volumes aussi, qui est un indicateur étroitement surveillé par le marché, ont reculé moins que prévu, ce qui rassure le marché. La société a aussi confirmé ses perspectives pour 2024. Elle tape sur une marge d'exploitation à deux chiffres, et ce pour la quatrième année consécutive.
Mais davantage que les chiffres à proprement parler, le marché achète surtout les propos de la direction lors de la conférence des analystes.
Oui, des propos très rassurants. Son directeur général a clairement indiqué que le meilleur était à venir pour l'activité de Saint-Gobain. Il a détaillé les tendances par pays. On va voyager ensemble, Guillaume. Les volumes sont déjà repartis à la hausse au quatrième trimestre en Europe de l'Est. Le creux de la vague a été atteint au Royaume-Uni. Mieux encore, les volumes reste robuste en Italie, en Espagne ainsi qu'en Amérique du Nord. Et pour finir, au Brésil, plusieurs lignes de produits sont sur une meilleure tendance. Donc les tendances s'améliorent donc. Et la direction affiche une meilleure confiance que lors de la présentation des résultats annuels. C'était en février dernier.
Saint-Gobain gagne 6,5% aujourd'hui en tête du CAC. Oh, Kering progresse. Tiens, Kering gagne aujourd'hui 3,7%. Deuxième plus forte hausse du CAC, vous voyez.
Et bon, après, la baisse...
Effectivement.
Voilà.
En revanche, Intel qui souffre aux États-Unis, hein, Intel déçoit énormément, notamment sur ses perspectives, moins 11% Intel à Wall Street. Ça entraîne STMicroelectronics aujourd'hui à moins 2,5% ce titre STM. Puis Airbus aussi recule. On en parlait avec Pierre-David Quenu. La publication d'Airbus est décevante, mais c'est sans doute une parenthèse. Les prochaines publications devraient être sans doute meilleures. C'est ce qu'il nous disait Pierre-David pour GSD. C'était à 16h. Le replay est disponible. N'hésitez pas lui aussi à le consulter sur notre application BFM Bourse. 16h44, on a sonné, je crois, à la porte. On va regarder qui sonne à la porte. C'est Julie Jourdan. Julie Jourdan, gérante pour Amplegest, elle arrive. Ben, rentrez, Julie, venez. N'hésitez pas à nous rejoindre, effectivement. Vous avez invité pour le club à 17h, mais vous venez un petit peu en avance. On en est ravis. On va profiter de votre présence, du coup, un petit peu plus longtemps. Bonjour, Julie. Bienvenue. Ça va?
Ça va bien, merci.
Bienvenue sur le plateau. Voilà, c'est l'invité décalé, l'invité en avance. Elle a un coup d'avance, effectivement, à un peu moins d'un quart d'heure de 17h. Vous êtes ici en avance et on va profiter de cette présence, donc, pour se parler avant que les autres invités de la suite n'arrivent. Et se parler peut-être un peu plus intimement, Julie, vous êtes prête?
Allons-y.
Voilà. Mmh. Pour ceux qui nous suivent à la radio, Julie est bien là.
Oui, je confirme, elle est là.
Donc, spécialiste des marchés actions américains, on le disait, Julie. Gérante action américaine pour Amplegest. Intéressante cette semaine américaine. Et notamment dans la tech, on a encore les publications hier soir de Microsoft, plus 2%, c'est salué. D'Alphabet, plus 10%, c'est plus que salué. Alors que Meta et Tesla, au contraire, ont bu le bouillon. Leurs publications ont été largement sanctionnées. Est-ce le signe que finalement, on n'achète plus toute la tech désormais et que le marché est peut-être en train d'entamer une phase de normalisation?
Écoutez, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a une année 2023 qui était exceptionnelle pour les mégatechs. Là aussi, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche en tant qu'investisseur? Qu'est-ce qu'ils cherchent, les investisseurs américains? Et quand on regarde, en 2023, ils cherchaient la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ils cherchent toujours des sociétés qui affichent de la croissance, une belle visibilité globalement et des perspectives et ne pas être déçus. En 2023, on avait des taux qui étaient assez élevés, et on avait l'émergence de l'intelligence artificielle et ces mégatechs qui étaient en capacité de financer et d'afficher des perspectives de croissance tout à fait solides.
Donc tout montait à l'époque, tout montait.
Toutes ces sociétés.
Une marée montante.
Exactement, en ont largement profité et on l'a vu, hein, puisque on le sait, ça a été commenté plein de fois, le S&P 500 hors des valeurs des Magnificent Seven ne montait que de 12% quand les Magnificent avaient des hausses qui combinaient étaient globalement d'à peu près 100% et ont impacté de manière extraordinaire, en fait, la performance des indices américains. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce qui s'est passé effectivement en 2023. En 2024, les investisseurs, ils cherchent toujours la même chose, c'est-à-dire de la croissance, de la visibilité dans un environnement qui reste incertain. Alors certes, on pensait qu'on allait avoir, on a eu des discours de la Fed qui nous ont dit qu'ils allaient infléchir leur politique. Mais là où on pensait qu'on allait avoir cette baisse de taux, bah finalement, on n'en attend plus qu'une, deux peut-être. Donc c'est vrai que ça a évolué. Et dans cet environnement-là, eh bien, on est exigeant. Donc Meta, typiquement, on l'a vu hier. Les capex vont être supérieurs, le chiffre d'affaires devrait être un peu inférieur. On n'est plus prêt à payer la même chose. On attend, on est exigeant par rapport à l'IA, les résultats, le côté concret. Est-ce que ça va générer enfin des revenus?
Oui, Meta qui recule encore d'ailleurs aujourd'hui de 0,8%. Est-ce que ça signifie que l'emballement autour de l'intelligence artificielle, l'emballement un peu aveugle, on va dire, est fini et que les investisseurs commencent à privilégier peut-être même d'autres secteurs?
Alors c'est intéressant parce qu'effectivement quand on regarde, on commence à avoir effectivement une moindre concentration des performances d'un point de vue sectoriel. Donc ça se diffuse la performance. En même temps, quand on regarde au réel à l'intérieur des secteurs, on voit bien que ça reste très concentré. Je prends le secteur de la tech, Nvidia 67% de hausse, AMD 4% de hausse. Je parle à hier hein, parce que effectivement. Dans la santé, c'est très concentré. On parle des Lilly, on a quelques autres acteurs comme Merck qui affichent des belles performances. Dans l'industrie, c'est celle qui bénéficie des méga-trends, le reshoring, la transition énergétique qui en profite. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? Ce que l'on constate, c'est que aujourd'hui, effectivement, les investisseurs sont plus exigeants et ils cherchent les sociétés qui ont des avantages compétitifs réels.
Dans ça veut dire qu'il y a un retour du stop picking. En fait, on est là à sélectionner puisque l'environnement, comme vous le décrivez très justement, est très exigeant. Avec maintenant, on est passé de baisse de taux à plus que deux, voire une. Et donc, on retourne au stock picking. On n'achète plus toutes les 7 magnificent comme en 2023, en fait.
On passe en fait d'un stock picking sectoriel ou lié à la capacité à générer du free cash flow, comme ce qui a été le cas l'année dernière, à un stock picking qui fait que dans un même secteur, eh bien, on va distinguer différentes les valeurs, les grands gagnants, ceux qui ont des avantages concurrentiels réels, ce que nous on appelle chez AmpleGest le pricing power, c'est-à-dire ces sociétés qui vont avoir un savoir-faire, une expertise, une avance technologique qui les rend incontournables pour leurs clients ou pour leurs fournisseurs. Et ça, on rentre dans une phase, il faut encore que ça se confirme, attention, on va voir, c'est quelque chose qui semble émerger, mais c'est quelque chose que nous, on trouve effectivement extrêmement intéressant parce que, en tant que gérant, c'est là où aussi on peut créer de la valeur.
C'est là votre intérêt aussi en tant que gérant, c'est de sélectionner les valeurs que vous trouvez pertinentes. Dans un environnement plus adverse, c'est là où vous avez vraiment votre valeur ajoutée.
D'autant plus qu'effectivement, c'est vrai que rechercher ces valeurs qui ont du pricing power, c'est dans notre ADN. Donc, c'est vrai que ce que l'on cherche.
Il n'y a pas des ETF pricing power, ça n'existe pas. Parce que vous êtes gérante active, vous défendez aussi votre paroisse. Mais voilà, il y a des ETF pricing power en face, ou pour le coup, c'est une ligne de nage dans laquelle vous êtes certaine de rester à peu près seule. Vous êtes vous, les gérants actifs, certains de rester à peu près seuls face à la gestion passive.
Écoutez, à ce stade, il existe des fonds croissance, il existe des ETF croissance sur le pricing power. Je n'en ai pas encore vu, mais d'accord. La liste est toujours très longue, donc je ne connais pas forcément.
Et s'ils existent, vous n'allez pas nous les faire découvrir non plus.
C'est pas votre intérêt.
Non, mais c'est intéressant, là. On est peut-être sur une bascule à Wall Street qui devient un peu plus exigeant, effectivement, même en matière d'intelligence artificielle. Sur Meta, notamment, la baisse d'hier qui se confirme, moins 0,8% encore aujourd'hui, Meta. Puis à l'inverse, quand une entreprise parvient à monétiser sur l'IA, c'est salué. Microsoft aujourd'hui, très belle publication, Microsoft gagne 2,8%, puis Alphabet gagne quasiment 10%. Alors Alphabet, en plus, ils annoncent un premier dividende. Vous êtes pleinement convaincu par ces deux valeurs, Microsoft et Alphabet, qui ont publié hier après la clôture?
Tout à fait. Alors c'est deux valeurs que l'on détient en portefeuille. En ce qui concerne Alphabet, c'est important de voir l'évolution de la société. Parce que ce qu'on reprochait souvent à Alphabet, c'est finalement de ne pas montrer qu'ils étaient très rigoureux sur leur capacité à maîtriser leurs coûts, de ne pas être extrêmement favorable au retour aux actionnaires, d'avoir une croissance qui était solide sans être extrêmement agressive. Finalement, tout ce que Facebook, enfin Meta maintenant, faisait assez bien et très bien, et avec ce qui avait marqué finalement l'année de l'efficience, comme l'appelait Meta en 2023. Là, le discours semble changer. On a une société qui a annoncé un premier dividende. Bon, il est faible, hein, mais c'est un premier pas.
C'est symbolique.
C'est symbolique, et ça va dans ce sens de montrer aux actionnaires effectivement qu'ils maîtrisent leurs coûts. Ils envisagent des retours aux actionnaires sous forme de dividendes et de programmes de rachat de titres, puisqu'ils ont également annoncé un programme de rachat de titres de 70 milliards. Et puis, par ailleurs, c'est une croissance qui accélère, hein, 15%. On était à 13,5 le trimestre dernier. On parle de 80 milliards. Hein, on parle de sommes colossales sur le trimestre. C'est la publicité également qui accélère, que ce soit sur YouTube ou sur leur site. Donc voilà, on a un groupe qui est en bonne santé financière.
Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ce titre Alphabet en hausse de 10% aujourd'hui. Alors, il y a mieux à Wall Street. Vous êtes sur Snap, hein, je crois, Julie. Non, vous n'êtes pas sur Snap. Snapchat.
Oui.
Chiffre d'affaires. Vous êtes sur Snap pour le
Non, coup, j'utilise pas
non,
Snap.
Vous
non,
non,
bah,
non plus. Donc.
Bah ouais, mais je sais, mais non.
Bien. Eh bien, le titre gagne 22% aujourd'hui, Snap. Après un méga premier trimestre, vraie surprise, le chiffre d'affaires qui progresse très très nettement, ça les marchés n'avaient pas vu venir, et Snap, donc le titre Snapchat en bourse, gagne à Wall Street 22%. C'est l'un des cartons du jour. 16h53, la famille se poursuit, vous restez avec nous Julie. On a quelques minutes encore à passer ensemble, effectivement, et voici venu le moment du Factor X, parce que nous aussi on vous regarde sur les réseaux sociaux. Vous nous regardez à la radio, à la télé, en replay, en podcast, mais on vous regarde aussi, on vous scrute. Et on met en avant chaque jour les posts que vous choisissez de publier sur le fil X ou encore sur LinkedIn. Aujourd'hui, ce post qu'on a repéré de Holger Spitz, qui nous parle justement de l'attrait des marchés américains. Le patron du fonds norvégien, le fonds souverain norvégien, estime qu'investir aux États-Unis est plus intéressant qu'investir en Europe. Voilà ce que souligne donc ce post d'Holger Spitz. Effectivement, d'après le patron du fonds souverain norvégien, les États-Unis sont en avance sur tout. Il y a moins de régulation aux États-Unis qu'en Europe. Il y a plus de capacité à prendre des risques aux États-Unis qu'en Europe. Raison de plus d'y investir plutôt qu'en Europe. Et les Américains, ajoute le patron du fonds norvégien, c'est un Européen quand même. Et les Américains travaillent par ailleurs plus dur que les Européens, ce qui leur permet aussi d'être beaucoup plus ambitieux. Voilà sa vision de l'attrait du marché américain face au marché européen. Alors Julie, vous êtes gérante action américaine, on imagine que vous n'allez pas dire le contraire.
Écoutez, je ne vais pas dire le contraire. Le marché américain me semble évidemment, et je suis biaisée hein, en le disant, extrêmement attractif, extrêmement passionnant oui. et intéressant. Et c'est vrai que c'est un marché qui est un marché de croissance, d'innovation. Donc c'est vrai que c'est
mais là, on va
un
vous marché prendre à... intéressant. Oui, ouais, mais on va vous prendre à votre propre jeu du coup. Total Energy n'exclut pas une cotation principale à Wall Street. C'est ce qu'a dit Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, tout à l'heure en répondant à une question de journaliste. Imaginez juste Total Energy, qui est quand même l'un des fleurons du CAC 40, l'une des plus grosses pondérations, pourrait éventuellement quitter la Bourse de Paris, je ne sais pas, mais en tout cas, avoir une cotation américaine.
Oui,
cotation principale à Wall Street. Vous lui dites quoi? Vous lui dites, Patrick, vous avez raison, vous avez tout compris. Vous dites, Patrick, attention, parce que moi, gérante action américaine, Julie, je connais bien ce marché. Et il n'est pas si simple que ça.
Écoutez, moi, je le regarderais d'un autre prisme. Le prisme de l'actionnaire américain et le prisme du PDG français. L'actionnaire américain, quand il regarde Total Energy, et je crois que vous le disiez précédemment, hein, aujourd'hui, on a plus de 50% ou pas loin de 50%
pas loin, oui, c'est ça.
D'actionnaires américains. Quand il regarde Total Energy, il voit une société qui s'échange à 8 fois. Le PE l'année prochaine, et 0,7 fois les ventes. Ils regardent Chevron et Exxon, et ils voient que ce sont des sociétés qui s'échangent à 1,4 fois les ventes et 13 fois le PE. Donc ils se disent, je trouve ça attractif comme investissement. Et à l'inverse, le patron, le PDG de Total, il voit l'ampleur de la décote de valorisation par rapport au marché américain.
C'est ce qu'évoque Shell
aussi.
Et
le financement que cela pourrait apporter pour demain à un certain nombre de projets. Donc, ça peut être cohérent, effectivement. Après, c'est d'autres débats.
Oui. Bah, c'est pas pour rien qu'aussi il y a les biotech aussi françaises qui ont tenté l'expérience aussi aux États-Unis, parce que voilà, il y a des fonds qui comprennent l'écosystème, des fonds qui ont une puissance financière plus importante. Certaines sociétés aussi européennes qui sont parties de ce côté finalement à Wall Street, oui, plutôt
qu'en Europe. ARN, par exemple, ARM, qui a choisi Wall Street. AstraZeneca
Wall Street. On le rappelle, hein, Birkenstock, autant de sociétés européennes qui ont préféré s'exiler aux États-Unis pour ce côté aussi un peu plus, c'est un peu plus ancien, mais Criteo, c'était un des pionniers.
C'est vrai, c'est vrai. Oui.
On se souvient, dans les années 90. Qui avait tenté l'expérience aux États-Unis.
L'attrait du marché américain, donc. Mais ça n'empêche pas, parce que tout n'est pas rose non plus pour les Américains. Attention, ça n'empêche pas la dédollarisation du monde. Dédollarisation lente et progressive. Les banques centrales d'un certain nombre de pays émergents, en ce moment, achètent de l'or pour moins dépendre du dollar. Et ça, ça énerve les conseillers de Donald Trump. D'après Bloomberg, les conseillers de Donald Trump sont en train de discuter entre eux de possibles pénalités, si Donald Trump était réélu président, hein, de possibles pénalités vis-à-vis des pays qui choisiraient de se dédollariser.
Ouais, mais comment on détermine en fait ces pénalités, comment on les applique? Enfin, il y a encore beaucoup de zones d'ombre par rapport à ça. C'est ce que j'ai.
Oui. Parmi ces pays, il y a la Chine.
Bien sûr, la Chine.
La Chine, par exemple, qui en 10 ans a divisé par deux sa détention de trésoreries américaines, donc d'obligations américaines. Il y a 10 ans, ils endettaient pour 1300 milliards de dollars, aujourd'hui pour seulement 775 milliards. Voilà. On verra hein, si ça fera partie des thèmes de campagne, effectivement, mais la dédollarisation du monde, c'est un grand mot, hein, pour l'instant un phénomène encore quand même assez marginal, mais quand même un phénomène peut-être en cours, dédollarisation du monde qui peut-être sera un thème de campagne au cœur de cette présidentielle américaine. On va suivre ça et on aura peut-être d'autres occasions d'en parler. Merci beaucoup, c'était La Famille, BFM Bourse, comme chaque jour jusqu'à 17h. Sabrina Sadghi, merci Sabrina.
Merci Guillaume.
Faites quoi ce week-end?
Beaucoup de choses.
Oui. Et ce soir, vous allez suivre les agences de notation ou pas?
Bien sûr.
Avec une pizza et tout, le premier repas toujours, pour regarder la...
Un repas, un plateau repas devant...
Devant Moody's et Fitch.
Voilà, le verdict tant attendu.
Oui, peut-être la perspective de la note française sera-t-elle ce soir dégradée, voire la note, on verra. En tout cas, il faudra suivre ça et surtout la réaction des marchés. Le 10 ans français, pas de pression particulière, on est à 3,05 en ce moment sur le 10 ans français. On va essayer d'anticiper d'ailleurs le choix des agences de notation avec nos experts du club dans un instant. Vous en ferez partie, Julie Jourdan, qui va continuer de nous accompagner pour Ample Geste. Et bien sûr, la clôture à vivre dans la prochaine heure, ce sera en direct. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com, et cet article consacré donc à Airbus, une des grosses déceptions du jour, Airbus. La rentabilité et le cash déçoivent la bourse, le détail, les perspectives surtout pour Airbus, dans cet article qui a été tout à l'heure mis en ligne. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.